Le rendez-vous scientifique.
Bonjour, c'est Patrick pour l'interview scientifique. Aujourd'hui, on va parler de la belle histoire de l'atome.
Depuis quand s'intéresse-t-on à l'atome ?
Alors, c'est une histoire qui a commencé il y a très longtemps et continue à durer. Tout d'abord, le terme atome signifie à l'origine indivisible et vient du grec atomos. Nous vivons dans un monde de matière. Depuis les temps les plus anciens, philosophes et savants ont voulu comprendre de quoi pouvait être fait le monde dans lequel ils vivaient. Pour cela, l'idée de base a été de rechercher les briques élémentaires qui composent la matière qui nous entoure. Cette quête a commencé avec les philosophes grecs vers environ 500 avant Jésus-Christ. Et comme on le verra, un pas décisif sera franchi avec la découverte du boson de Higgs en juillet 2012 au CERN de Genève.
Quand on parle d'atomes, on voyage vers l'infiniment petit. Quels sont les ordres de grandeur ?
En effet, pour fixer un peu plus les idées, un cheveu mesure environ 50 microns, c'est-à-dire 50 millionièmes de mètre. Encore plus petit, le globule rouge mesure 10 microns, soit 10 millionièmes de mètre. Et un virus, 0,1 micron, soit 100 fois plus petit que le globule rouge. L'atome est vraiment petit et mesure 0,1 nanomètre, soit un dixième du milliardième de mètre. Et le noyau de l'atome mesure 1 femtomètre, soit un millionième de milliardième de mètre. On a vraiment du mal à imaginer de telles petites tailles.
Aujourd'hui, quelle est notre connaissance sur la matière ?
Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que la matière est composée de quatre briques élémentaires de base. Ces briques sont des particules élémentaires, c'est-à-dire des particules que l'on ne peut pas décomposer en éléments plus simples.
Quels sont ces éléments de base ?
Ces éléments se regroupent en deux familles. D'une part, les leptons, composés d'électrons et de neutrinos, et d'autre part, de hadrons, composés de deux types de quarks. Des quarks que l'on nomme « down » et « up », uniquement pour les différencier. Une des caractéristiques des quarks est leur charge. Un quark « down » a une charge de moins un tiers, et un quark « up » a une charge de deux tiers. La charge est exprimée en multiples de la charge élémentaire, celle du proton, notée ici 1.
On sait qu'un atome est composé d'un noyau, avec des neutrons et des protons, des électrons en périphérie. À quel niveau interviennent les quarks ?
Les quarks interviennent directement dans la composition des protons et des neutrons. Un proton est composé de trois quarks, un quark down et de deux quarks up. Si l'on additionne les charges des trois quarks du proton, on obtient moins un tiers, plus deux tiers, plus deux tiers, égale plus un, qui est bien la charge normalisée du proton. Un neutron est composé de trois quarks, un quark up et de deux quarks down. Si l'on additionne les charges des trois quarks du neutron, on obtient moins un tiers, plus deux tiers, égale zéro. Le neutron est bien électriquement neutre.
On peut imaginer que ce niveau de connaissance ne date pas de l'Antiquité.
En effet, le niveau de connaissance à l'Antiquité était relativement faible, essentiellement basé sur l'intuition et la réflexion. Comme on va le voir, le chemin était très long avant d'en arriver à notre niveau de connaissance.
Reprenons un peu le début de cette histoire. Qui sont les savants de l'Antiquité ?
Les savants des temps anciens sont multidisciplinaires. Ce sont souvent à la fois des philosophes, des médecins et des mathématiciens. Leur spectre de connaissances était large, mais leur savoir était toutefois relativement limité.
Les principaux savants de l'Antiquité sont principalement grecs. Peut-on en dire quelques mots, Patrick ?
Oui, alors je vais en citer trois qui ont largement marqué la science. Empédocle, qui vécut de 490 avant Jésus-Christ à 430 avant Jésus-Christ, énonce que l'on est dominé par deux principes, l'amitié et la haine. Démocrite, qui vécut de 460 avant Jésus-Christ à 370 avant Jésus-Christ, est considéré comme matérialiste. Il pense que l'univers est composé d'atomes et de vide. Et Aristote, qui vécut de 384 avant Jésus-Christ à 322 avant Jésus-Christ, sera l'un des penseurs les plus influents de cette époque.
Revenons à Empédocle un peu.
Pour Empédocle d'Agrigente, la matière est continue et a horreur du vide. C'est la théorie de la continuité. Toute matière peut être divisée indéfiniment. Dans la nature, il y a quatre propriétés. La chaleur, le froid, l'humidité et la sécheresse. Et quatre éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu. Ces éléments et ces propriétés se combinent pour former tous les constituants de notre univers. En outre, si l'on modifie l'importance d'une de ces propriétés, on doit pouvoir transformer un élément en un autre élément. Par exemple, le plomb pourrait être transmuté en or si l'on sait associer les bons éléments.
Que peut-on dire de Démocrite ?
Démocrite d'Abdère est un disciple d'Empédocle. Par contre, sa vision des choses va diverger par rapport à son maître Empédocle. Pour Démocrite, la matière est composée de minuscules et invisibles particules, les atomes, mot qui, comme on l'a vu, vient du grec atomos et signifie insécable. L'univers est le fruit de deux principes, le vide, dans lequel se déplacent les particules de matière, et le plein, constitué de particules de matière. Les atomes se déplacent au hasard dans le vide. L'arrangement des atomes peut former des figures et des objets complexes.
Démocrite semble très visionnaire.
En effet, Démocrite est en effet très visionnaire pour son époque. Mais malheureusement pour la science, Démocrite n'était pas un philosophe très populaire.
Alors on peut penser qu'Aristote, philosophe reconnu, a des idées qui vont rejoindre celles de Démocrite.
Malheureusement, Aristote va totalement rejeter la théorie de Démocrite et va reprendre l'idée des quatre éléments d'Empédocle. De plus, Aristote affirme que les atomes ne peuvent pas exister puisqu'ils sont invisibles.
Et ensuite, que va-t-il se passer ?
La théorie d'Empédocle, reprise par Aristote, va perdurer 2100 ans, ce qui est un temps particulièrement long. La science va pendant ce long temps être dominée par l'alchimie et la religion. L'alchimie est apparue dans l'Égypte gréco-romaine au début de notre ère. Elle va s'orienter et travailler dans un premier temps sur les alliages grâce aux orfèvres et aux forgerons. Puis, l'idée de la pierre philosophale est apparue vers 300 de notre ère. Elle devait permettre de transmuter des métaux vils en métaux nobles, guérir des maladies et de trouver l'élixir de longue vie.
La religion a-t-elle une emprise importante sur les scientifiques ?
En effet, la religion a une emprise très importante sur la société et sur les scientifiques en particulier. Il faudra attendre le 14e siècle avec le philosophe anglais Guillaume d'Ockham pour avoir un très léger sursaut. Ockham va énoncer son principe connu sous le nom de rasoir d'Ockham. D'après Ockham, il faut éliminer les explications improbables. En d'autres termes, l'explication la plus simple est généralement la plus plausible. Pourquoi faire compliqué lorsqu'on peut faire simple ? Pour Ockham, l'hypothèse de Dieu qui régit tout est séduisante, mais elle introduit des explications très compliquées pour justifier son existence. Ockham est croyant. Il accepte cependant l'existence de Dieu uniquement par la foi.
On vient de voir le 14e siècle avec Ockham. Que se passe-t-il au 15e ?
Au 15e siècle, en 1440, il y a un événement majeur qui est la mise au point de l'imprimerie à caractère mobile par l'imprimeur allemand Johannes Gutenberg. Grâce à cette avancée, les savants et philosophes de cette époque vont pouvoir écrire et diffuser plus largement leurs idées et ainsi faire avancer plus rapidement la science.
On a vu que les théories sur la structure de la matière n'évoluaient pas beaucoup. Qu'en est-il de la chimie ?
En 1630, le chimiste et médecin français Jean Ray apporte des contributions importantes. Il exprime que la masse des corps se conserve dans les transformations chimiques. D'autre part, il montre le rôle de l'air dans les combustions. Il n'y a pas de combustion sans air. À la même époque, le philosophe et scientifique français René Descartes va donner la première impulsion à la science moderne. La science doit être basée sur notre raisonnement et pas seulement sur nos sens. Il définit également l'atome comme étant un tourbillon de matière.
On peut imaginer qu'au XVIIe siècle, siècle des Lumières, la science va progresser ?
À partir du XVIIe siècle et surtout au XVIIIe siècle, la science va connaître des avancées importantes. Au XVIIe siècle, le scientifique et philosophe français Pierre Gassend, dit Gassendi, explique que les tourbillons de matière de Descartes doivent être espacés car nul ne pourrait se mouvoir dans un air peuplé de tourbillons serrés. En 1661, le physicien et chimiste irlandais Robert Boyle rejette la conception des quatre éléments, la terre, l'air, l'eau et le feu d'Empédocle. Pour Boyle, la matière est composée de particules primaires, ce sont là les premières notions de molécules. Un pas décisif est apporté par le chimiste et physicien anglais John Dalton au XVIIIe siècle. Il constate que pour créer un nouvel élément, il faut doser correctement ses composants. Par exemple, on peut obtenir de l'eau en dosant correctement deux gaz, l'oxygène et l'hydrogène. Pour Dalton, la matière est composée d'atomes identiques que l'on peut combiner en proportions simples. Et les éléments chimiques se différencient par des atomes de masse différentes.
En effet, on a bien progressé. À partir de quand parle-t-on de molécules ?
C'est Amadeo Avogadro, un physicien italien, qui explique l'existence de la molécule. La molécule étant un groupement d'atomes. En 1811, Avogadro avance une hypothèse géniale et très audacieuse. Dans un centimètre cube d'oxygène, il y a autant d'atomes que dans un centimètre cube d'hydrogène. Comme un centimètre cube d'oxygène pèse 16 fois plus que le centimètre cube d'hydrogène, alors un atome d'oxygène pèse 16 fois plus qu'un atome d'hydrogène.
Et que va devenir l'avancée d'Avogadro ?
L'avancée majeure d'Avogadro va être mise à profit au XIXe siècle par le chimiste russe Dmitri Mendeleïev. En 1869, Mendeleïev va classer par ordre de poids les 63 éléments existants, en se basant sur l'atome d'oxygène qui est l'élément le plus courant. Mendeleïev va établir une table où tous les éléments d'une même colonne ont des propriétés chimiques analogues. Cette table est toujours utilisée de nos jours.
On sait que l'on doit la première pile électrique à Volta. Est-ce que cela a fait avancer la compréhension de l'atome ?
Effectivement, le physicien italien Alessandro Volta invente la première pile électrique qui porte son nom, la pile Volta. Cette invention signe le début de l'utilisation pratique de l'électricité. En 1891, le physicien anglais William Crookes expérimente une curieuse lampe. Dans l'ampoule de cette lampe, Crookes fait le vide. Il s'aperçoit que le courant circule entre la cathode et l'anode. De plus, une luminescence verte apparaît dans l'ampoule. Crookes venait de découvrir les rayons cathodiques constitués de particules chargées d'électricité. Le physicien et chimiste allemand Wilhelm Hittorf explique que cette lueur verte doit être produite par les particules arrachées de la cathode lors du rayonnement électrique. Un autre physicien allemand, Eugen Goldstein, a l'idée de placer une petite croix dans l'ampoule. L'ombre de la croix se découpe sur le halo verdâtre. Quant à Crookes, il va encore améliorer le système en remplaçant la croix par un petit moulinet qui se met à tourner lorsque le courant est établi. Crookes en déduit qu'il est nécessaire d'avoir un flux de particules consistant ayant une masse. C'est en 1895 que le physicien français Jean Perrin vérifie l'hypothèse de Crookes. Jean Perrin va installer un aimant fer à cheval autour du tube. La lueur verdâtre est déplacée. Seul un jet de particules négatives est capable de réagir de la sorte. C'est l'anglais George Stoney qui propose de nommer électrons ces morceaux d'atomes. Jean Perrin obtiendra le prix Nobel de physique en 1926 pour ses travaux sur l'existence réelle des molécules.
En effet, la science a bien progressé. Que devient donc cet électron ?
On ne sait pas encore grand-chose de ces électrons. Il faut attendre le physicien anglais Joseph John Thomson, qui 2 ans plus tard, en 1897, va faire une découverte importante. Il estime que la courbure de ce faisceau d'électrons doit dépendre de leur masse. Plus ces électrons seront légers, et plus il sera facile de les dévier. C'est ainsi que l'on a pu mesurer la masse des électrons en mesurant la courbure du faisceau. La masse de l'électron est estimée à 9,1 10 puissance moins 31 kg, ce qui n'est pas beaucoup. Les électrons pesés par Thomson sont issus d'une cathode en cuivre. Peut-être que les électrons du cuivre sont plus lourds que ceux du fer. Thomson va refaire son expérience avec des cathodes en fer, en antimoine et en argent. À chaque fois, la déviation du faisceau reste inchangée. Thomson conclut que tous les atomes ont des électrons identiques. Thomson avait inventé le principe du spectromètre de masse. En 1902, Thomson établit la théorie du plum pudding, que l'on peut traduire par cake au raisin, comme modèle de l'atome. C'est le premier modèle de l'atome. Thomson pense que l'atome est comme une sphère briochée au raisin. Les électrons, charge négative, éparpillés correspondent aux grains de raisin. Comme l'atome est neutre électriquement, la sphère doit être chargée positivement. Thomson obtiendra le prix Nobel de physique en 1906 pour ses travaux sur la conductivité électrique dans les gaz.
En cette fin du 19e siècle, y a-t-il d'autres découvertes importantes ?
En 1895, un autre physicien allemand, Wilhelm Conrad Röntgen, s'intéresse aux rayons cathodiques du tube de Crookes. Il entoure le tube entièrement d'un simple papier noir, un papier au platino-cyanure de barium, a la propriété de devenir fluorescent lorsqu'il reçoit des particules de lumière, c'est-à-dire des photons. Un tel papier se trouvait sur la table de l'expérience. Celui-ci devient fluorescent. Röntgen venait de découvrir les rayons X. Celui-ci va réaliser la première radiographie en demandant à sa femme de mettre sa main entre le tube et le papier. Röntgen recevra le prix Nobel de physique en 1901 pour la découverte des rayons X. Il y aura d'autres avancées importantes en cette fin du 19e siècle, d'une part par Henri Becquerel, Marie Curie, puis ensuite Ernest Rutherford.
Quel a été l'apport d'Henri Becquerel ?
Henri Becquerel est un physicien français. Il faut savoir que les sels d'uranyl sont fluorescents quand on les expose à la lumière. En 1896, Becquerel range dans son armoire un sachet hermétique de sel d'uranyl, à côté d'une plaque photographique. Quelques jours plus tard, il a un doute et développe la plaque photographique. Celle-ci est noircie. Le sel a rayonné sans avoir été exposé à la lumière. Becquerel nomme ce phénomène rayonnement uranique. Sa découverte, annoncée le 2 mars 1896, passe alors totalement inaperçue dans la communauté scientifique. Henri Becquerel venait de découvrir la radioactivité naturelle. Il recevra toutefois le prix Nobel de physique en 1903 pour cette découverte.
Et Marie Curie ?
Il faut associer le nom de Marie Curie à celui de son mari, Pierre Curie. Ce sont 2 physiciens français, bien que Marie soit d'origine polonaise. Marie Curie choisit la découverte de Becquerel comme départ de son sujet de thèse et lui donnera le nom de radioactivité. Marie Curie s'intéresse à la pêche blende, qui a une radioactivité plus importante que l'uranium. Avec Pierre Curie, il découvre en 1898 le polonium et le radium. Pierre Curie découvre de son côté trois types de rayonnement, alpha, bêta et gamma. Le rayonnement alpha est constitué d'atomes d'hélium, qui lui est composé de deux protons et de deux neutrons. Le rayonnement bêta est composé d'électrons. Et le rayonnement gamma de photons. Pierre et Marie Curie recevront le prix Nobel de physique en 1903 et Marie Curie recevra le prix Nobel de chimie en 1911.
Et que doit-on à Rutherford ?
Ernest Rutherford est un physicien de Nouvelle-Zélande. En 1899, Ernest Rutherford résume les connaissances sur l'atome. Tous les atomes possèdent des électrons qu'ils éjectent facilement. Heurté par un électron rapide, l'atome émet des rayons X. Seuls les atomes très lourds, comme le thorium, le radium et l'uranium, sont radioactifs, les derniers de la table de Mendeleïev. Rutherford comprend avec une analogie que seuls les atomes les plus lourds peuvent être radioactifs. Comme une pile de livres, plus elle est haute, plus elle est instable et plus les livres risquent de tomber. Un atome avec un très gros noyau pourra donc être instable. En 1911, Rutherford propose un modèle planétaire de l'atome. L'atome a une structure principalement constituée d'espaces vides. L'atome est composé d'un noyau porteur de charge positive. Dans ce modèle, les électrons gravitent autour du noyau. Pour bien montrer le vide dans l'atome, considérons l'analogie suivante. Si le noyau était une balle de ping-pong de 1 cm de rayon, le premier électron se trouverait à une distance de 1 km. Rutherford est intrigué. Un atome d'hydrogène possède un proton et un atome d'hélium possède deux protons. Mais l'atome d'hélium pèse 4 fois plus lourd que l'atome d'hydrogène. Pour expliquer ce poids excessif, Rutherford doit admettre qu'il y a d'autres particules qui viennent s'ajouter aux protons. Rutherford appelle neutrons ce nouveau genre de particules. Ernest Rutherford recevra le prix Nobel de chimie en 1908. Mais c'est un physicien anglais, James Chadwick, qui en 1932 met en évidence le neutron de Rutherford. Chadwick bombarde du béryllium avec des particules alpha, deux protons, deux neutrons et deux électrons. Il remarque une radiation inconnue qui éjecte des protons du noyau. Ces particules ont une masse proche de celle du proton, mais sans charge électrique. Les neutrons. James Chadwick recevra le prix Nobel de physique en 1935 pour sa découverte.
Est-ce le modèle de Rutherford le bon modèle ?
Le modèle de Rutherford a l'avantage d'être simple. C'est celui que l'on apprend toujours dans un premier temps. Le modèle n'explique pas tout. Par exemple, si l'on applique une tension électrique à du gaz hydrogène, les atomes d'hydrogène sont excités. Les électrons montent à des niveaux d'énergie plus élevés. Quand les électrons reviennent à leur niveau d'origine, ils émettent de la lumière. Si l'on décompose cette lumière émise avec un prisme, l'hydrogène donne mystérieusement 4 raies. 2 raies violettes, une raie turquoise et une rouge. Niels Bohr, physicien danois, va en 1913 proposer une amélioration du modèle de Rutherford, qui expliquera simplement les raies spectrales discontinues de l'hydrogène. Dans le modèle de Bohr, les orbites des électrons sont quantifiées. Chaque orbite ne peut pas avoir plus d'un certain nombre d'électrons bien définis. Niels Bohr recevra le prix Nobel de physique en 1922.
Cette fois, on est au bout de l'aventure ?
Le modèle de Bohr est celui que le grand public préfère. Ce modèle est faux, car à l'échelle atomique, les lois de la physique classique ne s'appliquent pas. On se trouve maintenant dans le domaine de la physique quantique. Les électrons sont en agitation désordonnée. On ne peut pas définir de trajectoire particulière. On peut juste délimiter la région où on a le plus de chances de les trouver. Les électrons ne tournent pas sur des orbites, mais gravitent selon leur niveau d'énergie. Ne rentrons pas dans les détails, c'est thématique sera l'occasion d'une prochaine interview scientifique.
Au début de cette interview, Patrick, on a vu que les savants de tous les temps ont cherché à comprendre les constituants de la matière. Est-ce que la connaissance de l'atome est suffisante ?
Alors, en parallèle de la constitution de la matière, il est nécessaire de comprendre les forces qui assurent l'équilibre de l'univers à tous les niveaux. Il y a 5 forces que les physiciens rêvent d'unifier. La force magnétique, la force électrique, l'interaction faible, l'interaction forte et la force gravitationnelle. Le magnétisme et l'électricité vont donner l'électromagnétisme. L'interaction faible est la force qui permet la désintégration radioactive. L'interaction forte permet la cohésion des constituants du noyau de l'atome et l'interaction gravitationnelle explique la chute des corps ou encore la marche des planètes. Dans les années 60, les physiciens ont unifié l'électromagnétisme et l'interaction faible. C'est l'interaction électrofaible. Il faut savoir que pour chaque interaction, il y a des particules de liaison ou d'échange. Pour l'interaction faible, les particules de liaison sont nommées bosons W et Z. Les équations imposent que ces bosons W et Z soient très massifs. Mais c'est totalement incompatible avec la théorie électrofaible. Étrangement, on ne sait donc pas expliquer pourquoi les particules ont une masse. Par contre, nous savons tous que la matière a bien une masse. Dans les années 1960, l'anglais Peter Higgs, puis les belges Robert Brout et François Englert avancent l'hypothèse audacieuse suivante. Il doit exister un autre boson, une autre particule d'interaction qui donne leur masse au boson W et Z. Ce boson, que l'on appelle boson de Higgs, créerait un champ d'interaction qui freinerait les particules en leur donnant ainsi une masse. Oui, mais tout cela n'est que supposition. Pour mettre en évidence la théorie de Higgs, les scientifiques construisent un accélérateur de particules, le LHC, pour Large Hadron Collider, au CERN, de 27 km de circonférence, sous terre, entre la France et la Suisse, pour la bagatelle de 7 milliards d'euros. Cet accélérateur délivre une énergie colossale, équivalente à celle des premiers instants du Big Bang. L'événement tant attendu finalement arrive le 4 juillet 2012. Les expériences Atlas et CMS du LHC mettent en évidence le boson de Higgs. On sait donc aujourd'hui pourquoi la matière a une masse. Peter Higgs et François Englert recevront le prix Nobel de physique en 2013. Robert Brout, décédé en 2011, ne recevra malheureusement pas le prix Nobel.